Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, on va aller voir comment le déconfinement se déroule en France après les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière. On va aussi parler de visa, vous dire les conséquences encourues si le vôtre a expiré et surtout que faire si vous vous retrouvez dans cette situation. Et puis, on va aussi retrouver Christophe Mallet qui a rencontré Louise. Louise, c'est une Française qui a épousé un aborigène et qui désormais a pleinement adopté cette culture. Mais tout de suite, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. Et les principales informations de ce mardi 4 mai 2021. La Commission européenne veut rouvrir les frontières aux ressortissants des pays tiers qui sont vaccinés contre le coronavirus pour relancer le tourisme. On ira à Bruxelles en tout début de journal. L'un des plus grands réseaux de pédopornographie en ligne vient d'être démantelé en Allemagne. Ce site hébergé sur le dark web comptait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Et en Australie, Scott Morrison tente d'éteindre la polémique concernant sa décision d'empêcher les Australiens actuellement en Inde de rentrer chez eux. Et je vous le disais donc dans les titres, la Commission européenne vient de proposer aux États membres d'autoriser l'entrée des visiteurs venus de pays tiers, du moins s'ils sont vaccinés et avec un vaccin autorisé dans l'Union européenne contre le coronavirus. L'objectif, bien sûr, c'est la relance du tourisme. On fait le point à Bruxelles avec Pierre Benazet de RFI.
La Commission européenne propose d'abord d'ouvrir les frontières de l'Union aux voyageurs vaccinés. Seraient autorisées à entrer sans condition dans l'UE toutes les personnes pouvant prouver une vaccination complète, soit avec un des vaccins approuvés par l'Agence européenne du médicament, soit avec un vaccin de la liste des homologations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. La Commission cherche d'ores et déjà à établir des critères communs pour la validité et l'authenticité des preuves de vaccination, qui pourrait être compatible avec le certificat numérique vert dont les Européens pourront disposer courant juin. La Commission propose aussi d'autoriser les voyages non essentiels pour les voyageurs provenant de pays considérés comme sûrs. Il n'y en a que 7 pour l'instant, avec un critère, 25 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les deux semaines précédentes. Sachant que la moyenne européenne est à 426 nouveaux cas pour 100 000, la Commission propose de relever ce seuil à 100 nouveaux cas afin de pouvoir classer des pays comme sûrs. Cette porte ouverte aux voyageurs non essentiels devra maintenant recevoir l'aval des 27 capitales, ce que la Commission européenne espère pour la fin du mois. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et on reste en Europe, direction Londres maintenant, où se sont réunis les ministres des pays du G7, la première rencontre en présentiel depuis 2 ans pour ce sommet international. Alors il a été question notamment de la Chine, du programme nucléaire iranien, du Brexit, mais aussi de l'Irlande du Nord. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a ainsi rappelé son soutien sans équivoque à l'accord de Belfast signé en 1998 et qui formalise le partage du pouvoir sur ce territoire entre nationalistes et unionistes.
The United States remains a steadfast supporter of a secure and prosperous Northern Ireland in which all communities have a voice and can enjoy the gains of the hard-won peace. Like several US presidents before him, President Biden has been unequivocal in his support for the Good Friday Agreement, which was a historic achievement and one that we should protect.
Et les participants à ce sommet sont également revenus sur le retrait des troupes américaines en Afghanistan, un sujet à propos duquel Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères, estime que le Royaume-Uni et les États-Unis sont en accord total sur cette question.
We've had very good consultation on this, and we continued that. We discussed it today. We certainly see the priority is protecting our troops in the period between now and September, making sure that we preserve the ability to deal with counterterrorism, that the gains that were hard won in Afghanistan are not lost, and also ultimately promoting dialogue and a peace process that benefits all Afghans and leaves Afghanistan as stable as possible, as inclusive as possible.
Et l'Organisation mondiale de la santé qui enfin annonce une bonne nouvelle. Ses experts scientifiques viennent de confirmer que dans les pays qui ont déjà vacciné plus de 50% de leur population, l'épidémie de coronavirus a très nettement reculé. Un signe encourageant qui laisse penser que le vaccin est efficace pour réduire la transmission du virus, même si pour l'instant ça n'a pas encore été démontré scientifiquement. Malheureusement, en revanche, pour l'Inde, il va falloir encore beaucoup de temps avant que la moitié de son immense population soit vaccinée. C'est ce que déplore le médecin-chef de l'OMS, Soumya Swaminathan.
A country like India has about a billion people to vaccinate, so this is not going to happen overnight. And I think India has done well in terms of rolling out the vaccination program, in using the private sector and the public sector to do that. The limitation, of course, right now is the supply.
Alors ceci étant dit, le monde prend quand même la bonne direction. Le taux d'infection au Covid-19 à l'échelle mondiale a chuté cette semaine, et ça, ça n'était pas arrivé depuis la mi-février. Dans le reste de l'actualité internationale, au moins 30 civils ont été tués dans un village de l'est du Burkina Faso hier, qui en fait l'attaque la plus meurtrière perpétrée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2015. Dans les faits, des hommes armés, pas encore identifiés pour l'instant, ont surgi dans ce village, abattu ses habitants et même incendié les maisons. À Ouagadougou, le compte-rendu de Yaya Boutani pour Radio France Internationale.
Les assaillants ont fait irruption dans le hameau de culture de Koudiel lundi autour de 5h du matin. Selon les témoignages recueillis par les sources sécuritaires sur place, ils étaient environ 300 personnes et l'attaque a duré jusqu'à 7h. Ils ont encerclé le village et massacré la quasi-totalité des hommes, selon un témoin cité par notre source. Seules les femmes et les enfants ont été épargnés. Le nombre exact des victimes reste pour l'heure inconnu. Le gouverneur de la région de l'Est parle de plus d'une dizaine de civils tués. Des sources sécuritaires font état d'au moins 30 personnes, parmi lesquelles deux volontaires pour la défense de la patrie abattus. Parmi les civils tués figurent le chef du village et plusieurs membres de sa famille. On dénombre également une vingtaine de blessés. Par ailleurs, une dizaine d'assaillants ont été abattus par les volontaires pour la défense de la patrie. Ces hommes armés ont vandalisé le centre de santé et vidé le dépôt pharmaceutique. Ils ont intimé l'ordre aux agents de santé de quitter le village. Les concessions et les greniers ont été incendiés. Selon nos sources, des boutiques ont été saccagées et du bétail emporté. Les rescapés ont fui vers la commune de Futuri. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI.
En Allemagne, l'un des plus grands réseaux de pédopornographie en ligne vient d'être démantelé. La police allemande a annoncé hier avoir fermé une plateforme qui était hébergée sur le Darknet où des centaines de milliers d'utilisateurs se partageaient des photos et des vidéos représentant des abus sexuels commis sur des enfants. Trois administrateurs de ce site ont été arrêtés. La correspondance à Berlin de Pascal Thibault pour RFI.
Plus de 400 000 personnes dans le monde entier étaient enregistrées sur la plateforme Boys Town. Par comparaison, un autre site pédophile d'importance démantelé il y a 4 ans comptait 100 000 utilisateurs. L'opération de la police allemande, en collaboration avec d'autres pays, qui vient d'être rendue publique, a eu lieu à la mi-avril. Trois Allemands ont été arrêtés, une quatrième personne, qui réside au Paraguay, devrait être extradée. La plateforme qui existait depuis juin 2019 servait à l'échange de vidéos ou de photos montrant avant tout des garçons parfois de très bas âge. Les serveurs de Boys Town se trouvaient en Moldavie. Les personnes arrêtées géraient le réseau et donnaient des conseils aux utilisateurs pour ne pas laisser de traces sur Internet qui auraient permis des poursuites à leur encontre. Les responsables du réseau Elysium, démantelé en 2017, également géré en Allemagne, avaient été condamnés à des peines allant de 4 à 11 ans de prison. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'actualité en Australie, c'est Scott Morrison qui est revenu sur la polémique autour de la suspension des vols depuis l'Inde. Alors que plus de 9000 Australiens se trouvent actuellement en Inde, le Premier ministre a tenté de minimiser l'impact de cette mesure annoncée la semaine dernière en rappelant qu'elle n'est que temporaire, elle doit être levée le 15 mai. C'est ce qu'il a expliqué dans la matinale de Channel 7.
it's a 14-day pause, as I've said, but also if people have been in other places outside of India for 14 days, then they can return home at the moment. So this is a two-week pause. This is not a permanent pause. This is not a four-month lockdown. What we are seeking to do here is ensure that Australia doesn't get a third wave of COVID across the country, and that would damage our economy, damage interests, and as we saw in Victoria with the second wave, we saw hundreds of people who were fatalities of that second wave. That's what we're trying to avoid here.
Donc, la suspension de tous les vols entre l'Australie et l'Inde, mais ça n'est pas la seule mesure qui a été prise récemment. Le gouvernement a aussi décidé d'exposer ceux qui tenteraient de gagner l'Australie depuis l'Inde via un pays tiers, comme par exemple le Qatar, à des amendes extrêmement élevées, plus de 60 000 dollars, et même à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Une décision critiquée par beaucoup, jugée même raciste par certains, et que n'approuve pas non plus l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull. D'après lui, le droit à rentrer chez soi est inaliénable.
This pandemic has been a huge challenge for governments, and you can look back in hindsight and you can pick off plenty of mistakes that our governments have made, but overall they've done a very good job. So it's not for me to be overly critical of what's not been done in the past, but I think there is a fundamental principle here. Australians must always have the right to come home. That is one of the rights of being an Australian citizen, and I've been shocked that that has been effectively abrogated in this instance. So that was a mistake that should be rectified.
Et ce point de vue, il est totalement partagé également par le leader de l'opposition, Anthony Albanese. Lui, il a rappelé que quand l'Australie a suspendu l'an dernier ses vols vers et depuis la Chine, le gouvernement avait dans le même temps trouvé et mis en place des solutions pour rapatrier ses ressortissants en Chine.
The government needs to put in place mechanisms so that they can get Australians home. When there was a travel ban from China, the Australian government chartered aircraft to get people back from Wuhan. At the peak of the outbreak that occurred, this government has done nothing to put in place those measures. What they've done is threaten people and then withdraw the threat.
Et sur cette question, enfin, la pression sur le gouvernement, elle vient aussi de la communauté indienne en Australie qui presse Canberra de laisser les Australiens en Inde rentrer chez eux ici en Australie. Pour le docteur Yadu Singh, qui préside la Fédération des associations indiennes de Nouvelle-Galles du Sud, aider les Australiens en Inde, c'est une obligation morale pour le gouvernement.
People of a particular type of Australian citizens are being targeted. If anything, moral obligation of Australia means that they should be brought here as soon as possible. And if they can't bring all 8,000 of them, at least think about bringing 690 people who are classified as vulnerable people in India.
Et sur un plan plus local maintenant, le gouvernement du Victoria est sous le feu des critiques puisqu'il vient d'annoncer la mise en place de subventions pour les personnes qui souhaiteraient acheter des véhicules électriques. Alors jusqu'ici, tout va bien. La somme annoncée pourrait aller jusqu'à 3000 dollars par véhicule. Sauf que dans le même temps, ce même gouvernement, il veut aussi taxer l'utilisation des voitures électriques à hauteur de 2 cents et demi par kilomètre parcouru. Et ce, à partir du 1er juillet. La raison avancée étant le financement et le développement des bornes de recharge sur les routes dans l'état du Victoria. Alors cette mesure de taxation, elle devrait rapporter 30 millions de dollars sur 4 ans et coûter par automobiliste propriétaire d'une voiture électrique entre 250 et 300 dollars par an. La mesure est vivement critiquée car elle est perçue comme un frein très net à l'adoption des véhicules électriques, et ce alors que l'Australie est déjà très en retard en la matière par rapport aux autres pays développés. Et puis pour finir ce journal, comme d'habitude, on fait un point rapide sur la météo de ce mardi en Australie. Il pleut à Perth où il fait 22 degrés aujourd'hui, 18 degrés à Adelaide qui va passer une partie de la journée dans la grisaille, 14 petits degrés à Melbourne où il y a aussi des averses aujourd'hui, temps pluvieux également à Sydney où le thermomètre affiche 21 degrés, 26 degrés et du soleil en revanche à Brisbane. Et du soleil aussi à Darwin, où la température maximale sera de 34 degrés aujourd'hui.
Journal des sports de ce mardi. Foot d'abord, le Paris Saint-Germain est en Angleterre pour le match crucial, la demi-finale retour contre Manchester City pour une place en finale de la Ligue des Champions. Éric Chorin, Radio France Internationale.
Et l'info du jour, c'est que Kylian Mbappé a bien traversé la Manche, pas à pied, hein, mais avec Mauricio Pochettino, malgré une contracture au mollet droit qui l'a empêché de jouer face à Lens samedi. Le buteur parisien fait partie des 25 joueurs emmenés par le technicien argentin qui se dit optimiste quant à sa participation au match. Participation dont ne doute pas l'entraîneur adverse Pep Guardiola. Il va jouer, prédit Pep qui ajoute « J'espère qu'il va jouer pour le foot pour ce match ». À noter qu'Idrissa Gueye est également du voyage, malgré le carton rouge reçu à l'aller qui empêche le Sénégalais de jouer demain. Des Parisiens solidaires donc et excités par le défi qui les attend à City après leur défaite à Paris 2-1. C'est si joliment dit par Marco Verratti.
C'est un match très joli. Il faut faire le maximum, chaque minute, chaque détail, parce que comme l'on a vu le match aller, ce sont des matchs que ça peut décider avec des petites choses. On va arriver en finale et pour arriver en finale, il faut gagner avec ce début d'écart. On a une équipe qui à la fin, il débute tous les matchs avec l'envie de gagner. On sait qu'on va gagner, ici. On est là, on va essayer tout ce qu'on a pour chercher cette finale. Comme je disais avant, il faut aussi être heureux sur le terrain, de penser à jouer au football parce que ce sont des matchs que tout le monde rêve de jouer, que tous les gens vont regarder. C'est pour ça que nous, on est les principaux acteurs. Il faut être vraiment heureux, jouer au football. Jouer avec le ballon, personnalité, caractère, parce que si on va arriver en finale, on a besoin de tous ces ingrédients.
Et puis la Ligue 1 avec l'OL qui est en bonne position à 3 matchs de la fin de la saison. Marie-Amélie Motte, RFI.
Oui, un match du dimanche, comme on les aime, de l'intensité, du suspense et des buts. 3-2, score final pour Lyon. Folland et Ben Yedder ont entretenu l'espoir côté monégasque, malgré les buts de Marcelo et de Memphis Depay. Et à la toute dernière minute du match, Ryan Cherki, 17 ans, a offert la victoire à l'OL. On écoute le héros de la soirée.
En début de match, même en seconde période, il y a eu beaucoup d'intensité. On avait bien débuté les 10 premières minutes, on s'est relâché un peu. On est venu avec d'autres intentions en seconde période et ça a payé. On a tout donné, c'était ce qu'on s'était dit dans les vestiaires. On fait pas de calcul, on donne tout. On avait à cœur de prendre notre revanche par rapport à la Coupe de France et aujourd'hui c'est rempli.
Grâce à cette victoire, l'OL revient à 1 point du podium et de Monaco. Donc Monaco qui a quasiment dit adieu au titre. 4 points de retard sur le PSG et 5 sur Lille alors qu'il ne reste que 3 journées. L'ASM peut nourrir des regrets à l'image de son milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni.
La défaite ce soir elle est assez dure à avaler parce que voilà, ouais. On menait, après on était en supériorité, ils sont revenus 2 fois et forcément il y avait de l'intensité, il y avait de l'enjeu et ça s'est vu ce soir, d'où un peu aussi la frustration à la fin et franchement ce soir c'est dur mais bon on a toujours notre destin entre les mains, on est toujours devant eux. Ouais. Il reste 3 matchs donc c'est à nous de faire le boulot quoi. Voilà je pense que là ce soir faut se vider la tête et on ira à Reims la semaine prochaine. Il faut rester concentré sur les 3 derniers matchs et finir le job.
Et à noter également 5 cartons rouges en fin de rencontre, 3 pour l'OL et 2 pour Monaco. Et donc autant de suspensions à venir pour les derniers matchs.
En Angleterre, avec la première ligue et le point sur les matchs du week-end, avec le match entre Manchester United et Liverpool reporté après que les supporters de United aient envahi la pelouse. Explication de Hugo Moissonnier pour RFI.
Pour sabrer le champagne dès ce week-end, juste avant leur demi-finale retour de Ligue des Champions contre Paris, les Citizens de Riyad Mahrez avaient besoin d'une contre-performance de leur voisin, Manchester United, à domicile contre Liverpool ce dimanche. Mais le match a été reporté, car les supporters des Red Devils ont envahi le stade de leur équipe, des fans remontés contre leurs dirigeants, notamment après l'épisode Super League, cette fameuse compétition réservée aux clubs les plus riches, dont Manchester United, un projet avorté car rejeté par les supporters. Toujours à l'occasion de la 34e journée de Première Ligue, les autres rencontres du dimanche ont bien eu lieu. Celle d'Arsenal contre Newcastle par exemple. Arsenal qui ne joue plus grand chose en championnat mais qui prépare sa demi-finale retour de Ligue Europa contre Villarreal. Succès 2-0 des Gunners à l'extérieur. Les buteurs sont africains. Enneni, l'Égyptien, a ouvert la marque. Et surtout, Pierre-Emerick Aubameyang a doublé la mise. 15e réalisation de la saison pour la vedette gabonaise, l'une des plus belles. Une reprise acrobatique après l'heure de jeu. Retour gagnant pour Aubameyang. Il avait contracté le paludisme lors de son dernier passage en sélection. Passage qui correspond notamment à la qualification du Gabon pour la CAN. Pierre-Emerick Aubameyang.
When you are out for a few weeks, you realize how it's good to be on the pitch. Quand tu es absent pendant plusieurs semaines, tu te rends compte à quel point c'est bon d'être sur le terrain. D'abord, j'étais heureux de revenir et je suis également heureux d'avoir marqué. Sur mes dernières minutes de jeu, j'étais un peu sur la réserve, mais je me suis senti bien durant le match. Les médecins se sont très bien occupés de moi, ils m'ont emmené à l'hôpital, ils ont fait le nécessaire. Je tiens à les remercier.
The docs did an incredible work with me and I have to say thank you to them.
Pierre-Emerick Aubameyang, interrogé par nos confrères de la télévision britannique.
En Italie, l'Inter Milan, couronnée championne du pays, 19e scudetto de son histoire. Écoutez Antonio Conte, l'entraîneur de l'équipe, il est sur RFI.
En
cet instant, on doit seulement penser à faire la fête et donc on ne commettra pas l'erreur de se mettre à organiser une réunion après l'autre ou d'envisager des disputes éventuelles entre l'entraîneur et le club. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Là, laissez-nous profiter de ce moment et de ce succès qu'on a voulu à tout prix. On est là à fêter car on a travaillé très durement pour arriver à cet objectif et personne ne pourra nous enlever cette joie qu'on veut partager avec tous nos tifosi.
On passe au cyclisme avec le Tour de Romandie qui a été remporté par le Britannique Geraint Thomas. Et puis le Tour du Rwanda s'est élancé dimanche. Hier, la deuxième étape a été remportée par le Breton Alain Boileau. Et c'était sa première victoire professionnelle. On l'écoute sur European Broadcasting Union.
Personnellement, c'est ma première victoire professionnelle, ma première saison. C'est l'envie de bien faire et aujourd'hui, je pense avoir bien fait. Donc, je pense que je peux être satisfait de moi et l'équipe sera sans doute satisfaite de moi.
À noter que les équipes Israël Startup, les équipes françaises B&B Hotels, KTM et le team Total Direct Energy sont présentes à cette édition 2021 au Rwanda. Plusieurs coureurs français sont aussi présents pour se préparer pour le Tour de France. On passe au tennis avec le Masters 1000 de Madrid de cette semaine et un petit aperçu avec Marie-Amélie Motte pour RFI.
Premier Masters de l'année avec du public, 4800 spectateurs maximum par session. Le roi de la terre battue, Rafael Nadal, est évidemment attendu, tout comme les outsiders, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem ou encore Daniil Medvedev. En revanche, Novak Djokovic et Roger Federer ont fait l'impasse sur ce tournoi.
On notera la victoire de l'Australienne Ash Barty contre la Polonaise Iga Świątek, 7-5, 6-4. La Polonaise, je rappelle, avait gagné Roland-Garros l'année dernière. Ash Barty, elle, se qualifie donc pour les quarts de finale. MotoGP et l'Australien Jack Miller a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Et le Britannique Lewis Hamilton a quant à lui remporté le Grand Prix de Formule 1 du Portugal. On passe en Australie avec le championnat de surf de Margaret River en Australie occidentale avec le rayonnais Jérémy Flores qualifié hier pour les huitièmes de finale. On l'écoute, il est sur European Broadcasting Union.
Je suis content de passer cette série, c'était une série très dure. Jack Robinson, c'est local, il est en forme en ce moment, c'est un peu le mec à battre. Donc je savais qu'il fallait que je sorte le grand jeu pour pouvoir le battre. C'était une belle série, il a fracassé, j'ai eu des bonnes vagues. Ça n'a pas arrêté toute la série, donc c'était très physique. Et à la fin, j'ai eu la plus grosse vague et j'ai essayé de forcer mes manœuvres et j'ai réussi à avoir son 9.4. Donc ça fait du bien de passer ce genre de série, ça montre que je peux encore le faire. Ah ouais, c'est sûr que j'ai plus de chance dans ce genre de vagues que dans des vagues comme Anahabin à Newcastle où c'est pas trop mon terrain de jeu. Là, je sais que dans ce style de vague, je suis capable de battre n'importe qui. Donc voilà, j'espère que la roue continuera à bombarder et qu'on a une belle série.
Et chez les dames, la française Joanne Defay affrontera la japonaise Amuro Suzuki en huitième de finale. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Pourquoi pas?
13h30 tout pile ici à Sydney. Vous êtes sur SBS, le programme en français. Et on vient d'écouter Vanessa Paradis et ce morceau qui s'appelle « Il y a ». On va retrouver maintenant Émile Matasso à Paris qui, pour cette semaine d'actualité en France, nous parle du nouveau plan de déconfinement annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Et à la une, le début en France du déconfinement.
Oui, c'est un peu un feuilleton sans fin, ce stop and go à la française hein, depuis plus d'un an maintenant. Et cela doit paraître un peu surréaliste et étonnant vu d'un pays comme vous en Australie qui a maîtrisé l'épidémie depuis longtemps. Mais le président de la République, Emmanuel Macron, a fait depuis des mois ce choix-là, vivre avec le virus. La stratégie zéro Covid, ça n'est pas soutenable avec nos standards démocratiques, a même expliqué le chef de l'État. Ce sont ces mots hein, dans un entretien tenu à la presse régionale vendredi dernier. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par standard démocratique quand il dit que ce n'est pas soutenable, la stratégie zéro Covid en France. Toujours est-il qu'il n'en a jamais été question dans un pays, la France, d'imposer à la population toutes les mesures qu'il aurait fallu mettre en place pour arriver à cette stratégie Covid zéro. Dans l'entourage du président, on précise que les pays qui sont parvenus à mener cette politique sont soit des îles, Australie, Nouvelle-Zélande, soit des régimes autoritaires, ce qui renvoie à certains pays d'Asie. Emmanuel Macron, en tout cas, assume ce choix, vivre avec la pandémie, alors qu'on en est toujours à plus de 30 000 nouveaux cas positifs par jour et quelques 300 décès quotidiens. On est sur ce plateau-là depuis des semaines et des semaines, des mois même. Est-ce que je peux vous dire, les yeux dans les yeux, qu'on ne sera plus jamais débordé par le virus ? C'est impossible, a reconnu le chef de l'État dans cet entretien. Mais il a néanmoins annoncé ce calendrier de déconfinement progressif, donc progressif pour les mois de mai et juin, un déconfinement qui a commencé cette semaine avec notamment la réouverture des collèges et des lycées qui étaient fermés depuis un mois.
Quelles sont les différentes étapes de ce déconfinement échelonné sur les deux prochains mois ?
Bien, déjà, nous le disions, collèges et lycées ont rouvert, alors en demi-jauge, comme on dit pour les lycées, c'est-à-dire que la moitié seulement des élèves peuvent être sur place, présents, en même temps à chaque établissement de s'organiser. Autre levée de restrictions cette semaine, la suppression de la limite de 10 km pour vos déplacements, ce n'est pas rien. Vous pouvez de nouveau vous déplacer sans attestation dérogatoire au-delà de 10 km de votre domicile, ce qui signifie que les déplacements entre différentes régions, intra-régions, inter-régions, sont de nouveau autorisés. Voilà pour la première étape. La deuxième étape de ce calendrier de confinement, ce sera dans 15 jours. Au regard, précise le chef de l'État, des chiffres de l'épidémie, certes, mais le gouvernement, s'il se donne le droit de maintenir certaines restrictions dans certaines régions plutôt que dans d'autres, au vu des chiffres, dans 15 jours, normalement, au 19 mai, c'est la réouverture des commerces, dits non essentiels. Ils sont fermés, ces commerces, depuis plus d'un mois maintenant. La réouverture également des terrasses, des cafés. Moment ô combien attendu, hein, les cafés et les restaurants sont complètement fermés depuis fin octobre. Et bien là, tout ce qui est terrasse, extérieur, pourrait rouvrir dans 15 jours. Réouverture également des musées, des cinémas, des théâtres, salles de spectacle avec des protocoles bien précis toutefois. Réouverture aussi des stades pour les spectateurs avec des jauges limitées au départ jusqu'à 1000 spectateurs. Tout cela serait donc pendant 15 jours, reprise aussi des activités dans les salles de sport, ce qui est un peu difficile. Toutefois, à comprendre, hein, c'est que tous ces lieux sportifs, culturels, ils sont fermés depuis 6 mois, restaurants, bars, mais qu'aujourd'hui, la situation économique, on l'a dit, elle n'est pas meilleure qu'il y a 6 mois, elle est même dans l'absolu pire. Alors, pourquoi donc ne pas les avoir laissés ouverts ces 6 derniers mois ou pourquoi les rouvrir maintenant ? On en revient à cette fameuse doctrine qui ne dit pas son nom, vivre avec le virus. Nous sommes début mai, les beaux jours, le printemps sont là. On se répète, le gouvernement sait bien qu'il faut lâcher du lest les Français en homard, tout en faisant donc le pari que la campagne de vaccination va enfin permettre dans les prochaines semaines de casser la dynamique de circulation du virus. Une troisième étape de déconfinement, elle nous amènera début juin, le 6 juin, avec là, si tout va bien, la réouverture des salles de restaurants et de cafés, mais en intérieur, les salles, oui. Et puis, des jauges qui vont augmenter pour les salles de spectacle et de sport jusqu'à 5000 personnes. Un couvre-feu qui sera repoussé début juin à 23 heures. Durant toutes ces étapes, le télétravail sera assoupli, retour progressif donc sur son lieu de travail. Et puis, la dernière étape du déconfinement, telle que voulue par l'exécutif, le 30 juin, la levée du couvre-feu. Alors sur le papier, on le voit, ce calendrier, il a été savamment pensé, permettre la levée de toutes les restrictions le 30 juin, à l'exception de la réouverture des discothèques, c'est permettre à tous les Français d'avoir un été quasi normal. En 2021, des mois de juillet et d'août, des grandes vacances d'été, sans véritable restriction. Alors certes, il faudra respecter la distanciation sociale, le masque probablement, mais les privations de liberté, elles, auront été levées. C'est un horizon qui maintient l'optimisme. Rien ne dit qu'il pourra être tenu. Tout dépendra de la situation sanitaire qui ne doit pas se détériorer d'ici là.
C'est ce qui s'était passé l'an passé pour l'été 2020.
Eh bien, c'était en effet la même configuration il y a un an. Après le déconfinement strict du printemps 2020, les autorités françaises avaient desserré la vis pour laisser libres de leur mouvement les Français en juillet et en août. Et on se souvient à l'époque des quasi-injonctions de différents ministres qui enjoignaient la population, à partir en vacances, à réserver des trains, des avions, des locations. Cela dans le but, à peine caché, bien de relancer l'activité économique. Les autorités ont ainsi fermé les yeux en juillet, août, sur les chiffres de l'épidémie qui commençaient à remonter durant cet été 2020. Et on l'a bien vu, les mesures censées être respectées dans les restaurants n'étaient pas du tout suivies durant ces mois de juillet et mois d'août. Mais si nous en sommes toujours là, aujourd'hui, avec ce stop and go qui n'en finit pas, c'est en grande partie parce qu'il y a eu ce laisser-aller durant l'été 2020 et à la fin des grandes vacances, début septembre dernier, le brassage de la population qui avait déjà eu lieu avec l'été, tout cela a réduit à néant tous les efforts du printemps et dès septembre 2020, octobre, l'idée de nouvelles restrictions, de nouveaux confinements était déjà devenue inéluctable. De nombreux épidémiologistes et médecins dénoncent donc aujourd'hui, printemps 2021, le calendrier de déconfinement que nous présente le chef de l'État et dont nous venons de parler. Il l'estime prématuré et même si le gouvernement table sur 30 millions de Français qui auront reçu au moins une dose de vaccin fin juin, c'est l'objectif, les médecins, craignent que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'après l'été 2021, on se retrouve de nouveau avec un automne très difficile face à la pandémie.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vous êtes avec SBS French.
Alors, on est ici avec Louise. Vous avez une histoire un petit peu singulière. Vous êtes française, mais vous êtes mariée dans la culture aborigène.
C'est ça, exactement. Donc, mon mari est aborigène. Il vient de Tasmanie. Et quand on a eu des enfants, on a découvert cet endroit où c'est tout à propos de la culture aborigène. Donc nous, on vient tous les mercredis pour le Bush Playgroup, ça s'appelle, et donc on apprend les contes aborigènes. Voilà, les contes aborigènes. Donc on chante, on danse. Oui, c'est super. Ouais, c'est ma deuxième maison.
On entend les enfants derrière. C'est important pour eux aussi, je suppose.
Oui, très important. C'est très important pour eux et pour moi aussi, parce que c'est leur héritage. Ça fait partie d'eux et ouais, c'est.
Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire singulière. Vous vous êtes rencontrés, vous ne saviez pas forcément qu'il était aborigène à l'époque. Comment ça s'est passé?
Alors on s'est rencontrés en fait sur... Donc moi je voyageais en Australie juste en tant que backpacker. Donc voilà, je faisais le tour de l'Australie et je me suis retrouvée sur French Island, donc qui est une petite île pas très loin d'ici. Et il travaillait là-bas et on s'est rencontrés comme ça et on est plus ou moins tombés amoureux. Enfin, plus ou moins, voilà.
Plus ou moins.
Alors, on est tombés amoureux et je me suis retrouvée ici. Voilà, je me suis dit, bon, bah, il est pas mal, j'aime bien ce que payer, voilà, je vais rester ici. On a eu des enfants et après, c'est... parce que lui, en grandissant, il n'a jamais été en relation avec les aborigènes, jamais, vraiment. Et pour moi, c'était important que mes enfants, étant aborigènes, qu'ils aient cette culture, que ça fasse partie d'eux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai poussé à s'introduire un peu, à chercher, à se... Voilà, et donc, c'est comme ça que... Voilà,
c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Et vos parents dans tout ça, c'est quoi leur réaction?
C'est dur pour eux qu'on soit si loin. Mais ils adorent la culture. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils adorent. Mon père est venu ici plusieurs fois et à chaque fois, il y a une émotion ici, une vibe.
Mais pour le coup, ils ont aussi une expérience australienne qui est peut-être différente d'autres parents qui ont des enfants français qui ont décidé de rester ici parce que vous êtes vraiment intégré au cœur de la Première Nation en fait.
Oui, c'est vrai, c'est un bon point. J'ai pas pensé comme ça, mais oui. Et ils apprennent aussi. Parce que moi, j'apprends aussi, j'apprends avec mes garçons. Quand ils viennent ici, ils apprennent et moi aussi, j'apprends. Et je pense que mes parents aussi. Et c'est un beau cadeau, je pense, pour eux et pour moi.
Et cette culture aborigène, est-ce qu'elle a été un peu compliquée à intégrer? Parce qu'on n'a pas ça dans le sang. Mais vous devez apprendre ça tous les jours. Donc, il y a des faux pas, on fait des erreurs. Est-ce que c'est un peu ça aussi?
Oui, c'est un petit peu ça, oui. Oui, on apprend en faisant des faux pas. Et je pense que pour eux... Donc, par exemple, si un jour vous demandez une mauvaise question, un faux pas, ou voilà, vous faites un faux pas, je ne pense pas qu'ils vont vous en vouloir. Parce que je pense qu'ils y sont passés par là aussi, parce que beaucoup de personnes qui viennent ici ne sont pas donc full blood, comme on dit, aborigènes. Ils sont, par exemple, c'est leurs ancêtres qui étaient aborigènes. Donc c'est pareil, ils viennent ici parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent savoir d'où ils viennent. Et voilà, en faisant des faux pas, on apprend. C'est ça. Voilà.
Un peu comme avec les beaux-parents.
Exactement pareil, voilà. Exactement pareil, ouais.
En tant qu'étrangère, vous, si on fait un peu le point là-dessus, ces big cook-up, cette relation avec la population aborigène, ça veut dire quoi pour vous? Parce que vous dites, vous apprenez, etc. Mais il y a sûrement une soif d'apprendre, c'est clair. Mais est-ce que c'est encore très impressionnant?
Je pense que c'est beaucoup du respect aussi, parce que les indigènes, donc les indigènes d'Australie, c'est une population, enfin c'est peut-être la plus ancienne civilisation du monde. Et je pense que d'avoir ça dans leur sang, c'est juste... c'est énorme. Enfin, c'est énormément j'ai énormément de respect. Et donc, c'est pour ça que je viens. Je suis juste... À chaque fois que je viens ici, c'est... oui, c'est beaucoup de respect. Beaucoup de respect et de...
Est-ce que si vous pensez un petit peu, vous repensez à la petite Louise qui avait 5, 6, 7 ans, ça veut dire quoi dans vos têtes?
Vous m'aviez dit que... Alors oui, dans 20 ans... tu habiteras en Australie, Louise, tu auras deux enfants qui font partie de l'héritage aborigène. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui.
Pour vous, c'est la maison ici?
Ah oui, c'est ma maison. Ouais. Ouais, c'est ma maison.
Merci, Louise.
Je vous en prie, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Annie's like no woman, no she's the only one. Annie, I'm her big fan, but she's leaving me behind. I don't know what else to say. I don't know what else to say. Shall I go or shall I stay?
13h48 minutes sur SBS French. On vient d'écouter le morceau Annie, interprété par Mathieu Bougertz, qui, comme vous avez pu l'entendre, nous rassure tous sur notre accent en anglais. Allez, on va maintenant parler de visa. Certains d'entre vous ont peut-être des titres de séjour temporaires, visa vacances-travail, visa étudiant ou bien encore visa sponsor. Que se passe-t-il s'ils arrivent à expiration ? Bertrand Tungandamé s'est renseigné, il vous explique tout maintenant.
Vous êtes avec SBS French.
Que se passe-t-il si quelqu'un se trouve en Australie et que son visa a expiré ? Les étrangers en situation irrégulière risquent d'être détenus et expulsés du pays. Mais que faire si vous vous retrouvez avec un visa expiré en Australie ? Un charpentier italien de 25 ans, que nous appelons Giacomo dans cette rubrique, est arrivé en Australie avec un visa vacances-travail en 2018, puis a obtenu un visa étudiant. Plus tard, il a trouvé un employeur qui l'a parrainé pour un visa temporaire du programme mis en place pour adresser la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et lorsqu'il a fait une demande de visa de type 482, il a reçu un visa transitoire de type A, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.
I applied for a sponsorship visa in 2019 November, but then I entered just in a bridging visa for the sponsorship. And in May, when the COVID arrived, I lost my job, so I didn't have any more sponsorship.
Le ministère de l'Intérieur a envoyé à Giacomo un avis indiquant qu'il avait 35 jours pour retirer sa demande du visa de type 482 et introduire une demande pour une autre catégorie de visa ou quitter le pays. Ensuite, avec l'aide d'un agent de migration, il a demandé un visa de visiteur, mais celui-ci lui a été refusé car cette demande a été introduite plus de 28 jours après l'expiration de son visa étudiant, qui était le dernier visa substantiel qu'il avait eu. Il a fait appel de cette décision. Selon Emmanuel Akanini, un agent de migration chez Migration World, la plupart des gens se trouvent en situation régulière en Australie. Cependant, elle dit qu'il lui arrive de recevoir des clients qui ont laissé leur visa expirer.
Usually most of the people who let their visa expire are mainly visitor visa holders, but also students. Some forget about the expiry date, some don't care, some don't clearly understand the system, while others do it deliberately to continue to stay in the territory and maybe work without permission. In my experience, there are also some with working holiday visa who don't quite understand when the second working holiday visa starts and consequently miss the visa end date.
Selon Mme Canini, il existe des croyances erronées répandues sur ce que signifie être en situation de séjour illégal.
The first is that being illegal is not a characteristic of asylum seekers, for example, especially those who arrive by boat. And the other widespread myth is that upon expiry of the visa, you have 28 days to leave Australia. It's not true. When the visa expires, it expires.
Les lois relatives aux visas sont décrites dans la loi de 1958 sur l'immigration et le règlement sur l'immigration de 1994.
By law, everyone must have a visa to enter and stay in Australia. All temporary visas have an expiry date. And during your stay, you must make sure to renew it before it expires or apply for a different visa if you satisfy the requirements. If this doesn't happen upon expiry of the visa, you become legal. The greatest risk of being illegal is that you may end up in detention and then removed from the country.
Selon le ministère de l'Intérieur, au 31 janvier 2021, 156 étrangers en situation irrégulière étaient en détention en attente d'expulsion du pays. Cependant, on estime qu'au total, des dizaines de milliers sont en situation irrégulière. L'agent de migration et avocat accrédité Alessia Comandini des services de migration Comandini explique qu'une personne qui constate que son visa a expiré peut organiser son départ du pays avec le ministère de l'Intérieur en demandant un visa transitoire de catégorie E qui lui permet d'être en situation régulière avant son départ.
We always advise our clients when they realize that their visa has expired not to simply buy the ticket and go to the airport. But we always advise them to request a bridging visa E before leaving the country.
With this bridge in Bisayi, there will be granted a period of time to legally leave the country, and they will avoid any detrimental consequences like being detained at the airport.
Une personne qui a dépassé la durée de son visa de moins de 28 jours, elle a plus d'options.
A person may be able to apply to remain in Australia because of their relationship with another Australian citizen or permanent resident, which is obviously the partner visa applications. Or if a person has held a student visa and within the 28 days from the expiration date of their student visa, they apply for another student visa, they technically have a grace period which will allow them to apply again for another student visa.
Les étudiants étrangers ne peuvent utiliser cette période de grâce qu'une seule fois dans leur vie. Et si une personne a dépassé la durée de son visa pendant plus de 28 jours sans régulariser sa situation, ses options deviennent très limitées. Dans certains cas, on peut être frappé d'une période d'exclusion de 3 ans pendant laquelle on n'a droit à aucun autre visa.
Si you have stayed and remained in Australia legally for more than 28 days, any future application for an Australian visa will be subject to an exclusion period. That means that you will be unable to be granted a visa to travel to or to stay in Australia for a minimum of 3 years. This period will apply even if you have left Australia voluntarily.
La période d'exclusion de 3 ans commence le jour du départ d'Australie. Elle s'applique à ceux qui n'ont pas régularisé leur séjour dans les 28 jours suivant l'expiration de leur visa et ont quitté l'Australie en situation de séjour irrégulier et détenteurs d'un visa transitoire de catégorie C, D ou E. Alors, comment éviter de se retrouver dans cette situation? Bien, Madame Canini explique que la meilleure chose à faire est de prêter attention à la date d'expiration de son visa au moment de son obtention.
It is not actually difficult to avoid being without a visa. Obviously, there may be special circumstances such as an accident or a sudden event, but essentially you must be aware of the expiry date of your visa, first of all, and this is written on all the letters of approval of the visas, or you can check it on the Department of Home Affairs website by entering your data into the system. And in case you're not very familiar with the English language or with the system, you can still ask an immigration expert.
Dans certains cas, des personnes dont le visa a expiré peuvent introduire une demande de visa de protection ou demande d'asile. Ben Lumsdaine, qui est l'avocat principal superviseur au service conseil et gestion des dossiers pour les réfugiés, Refugee Advice and Casework Service, ou RACS en abrégé, explique qu'une partie du travail de son organisation consiste à aider les personnes qui craignent d'être persécutées dans leur pays d'origine.
The Refugee Advice and Casework Service works with people seeking asylum in Australia. Will help them try to apply for protection visa if they've got a fear of being persecuted in their home country. So sometimes those people come to us while they have student visas, they might come to us while they have a visitor visa, but it could be any type of visa really. And if we think they should apply for a protection visa, we could help them with that. And if they're waiting for that protection visa application, if they're not meeting the conditions of their visa, so for student visas where it's like attending classes, then that visa might be cancelled and we'd assist them in that scenario.
Le RACS a récemment aidé certains étudiants vénézuéliens à introduire une demande de visa de protection en Australie. Une aide est disponible pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur sbs.com.au/settlementguide.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 4 mai 2021. La Commission européenne veut rouvrir les frontières de l'Union aux ressortissants des pays tiers, en tout cas à ceux qui sont vaccinés contre le coronavirus et avec un vaccin approuvé par les autorités européennes. En Allemagne, l'un des plus grands réseaux de pédopornographie en ligne vient d'être démantelé. Des centaines de milliers d'utilisateurs se rassemblaient sur ce site hébergé sur le dark web. Et puis, en Australie, Scott Morrison, pour sa part, tente d'éteindre la polémique concernant sa décision d'empêcher les Australiens actuellement en Inde de rentrer chez eux.
Petit pays, soleil.
Et SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec la belle voix de la chanteuse guyanaise Saina Manotte sur ce morceau qui s'intitule « Petit pays ». Nous, notre prochain rendez-vous, ce sera jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez bien sûr continuer à écouter nos émissions et interviews en podcast. Pour cela, c'est simple, vous pouvez télécharger notre application SBS Radio ou bien tout simplement vous abonner à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.